Bonjour à tous et bienvenue dans Écouter pour mieux s'entendre, une émission qui donne la parole à des gens qui ont choisi une vie en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, nous allons dans l'atelier de poterie d'Anaïs qui, après 7 ans comme designer de produits funéraires, a choisi de vivre de sa passion, la céramique. Elle fait maintenant partie des rares créateurs d'urnes funéraires en France. Bonne écoute!
Coucou Anaïs, ça va?
Salut!
Je t'appelle Anaïs?
Oui.
J'ai 5 minutes de retard. Ça va?
Très très bien.
On s'assoit là, ouais, c'est bien. Déjà, merci de me recevoir. Non, mais merci de prendre le temps de m'accueillir ici parce que je sais que t'es très occupée. Quand je t'ai appelée, t'étais à un salon à Lyon.
Ouais, donc, la semaine dernière, c'était hardcore. Donc.
Ouais. T'avais beaucoup
je travaillais jusqu'à, bah, hier aussi d'ailleurs, mais jusqu'à 21h. Parce que j'ai maillé toutes les pièces pour les marchés de Noël.
Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un tout petit peu sur ton enfance? En fait, on va faire une psychothérapie. Non, mais juste, je voudrais savoir où est-ce que tu as grandi et quel type d'enfant tu étais? Quel tempérament?
J'ai grandi à Rouen, dans des quartiers plutôt classe moyenne mais populaire. J'étais une enfant très créative, que je dessinais beaucoup. Et joyeuse, quoi. Une enfant.
Ok. Donc déjà, une âme d'artiste, quoi.
Oui. Oui. Et c'est tombé sur le médium dessin. Parce que je pense que c'est un papier et des crayons couleur, c'est ce qu'on a le plus facilement quand on est enfant.
Dès le début de ta carrière, t'étais dans le domaine funéraire.
Oui. En fait, oui, j'avais pas de spécialité funéraire dans mes études. Je suis allée dans un master qui s'appelait Design Produit, Art de Vivre.
Art de
faire, faut le faire. Avec une spécialité en design couleur. Et c'est moi qui ai décidé de m'intéresser au domaine funéraire. On le découvre pas du tout pendant les études de design produit. Et après, j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise qui est près de Dinan. Et ils m'ont embauchée en tant que designer funéraire.
Ok.
Où, en gros, je dessinais des tombes.
C'est un business qui ne s'arrêtera jamais.
Non.
Ce n'est pas indémodable.
Oui, c'est pas indémodable. Et c'est un domaine qui évolue très très lentement en style.
Ah oui.
Je pense que tout le monde peut remarquer les...
oui.
Le kitsch dans les cimetières. Et c'est là que le travail d'un designer est intéressant.
Thank you. À un moment donné, j'imagine que la poterie est rentrée dans ta vie, peut-être en hobby au début.
Oui. J'ai toujours été intéressée par la céramique depuis la fin de mes études. Et je savais déjà que je ne voulais pas rester salariée quand j'ai essayé de mettre de l'argent de côté, disons-le. Mmh. Donc, j'ai travaillé en tant que salariée, c'était super. Et au fur et à mesure que les années ont passé, mon idée d'allier céramique et funéraire s'est vraiment consolidée. Et au bout de 6 ans, j'ai décidé de sauter le pas.
Mais la céramique, tu en faisais juste chez toi ?
J'en faisais un petit peu chez moi, mais surtout, je prenais des cours du soir, un cours loisir, et c'était du modelage. Il n'y avait pas de tournage. C'était vraiment le céramiste, le professeur, nous laissait libre dans notre créativité. Il nous expliquait les techniques, et puis on faisait ce qu'on voulait. Et ça n'avait rien à voir avec le funéraire. Hein. Je faisais vraiment du décoratif, des vases aux petits bonhommes rigolos. Quoi.
Et rapidement, tu t'es dit que t'aimerais en faire ton métier ou pendant des années, c'était juste une passion
C'était un hobby, mais je savais... c'est un peu étrange à dire, mais j'avais la conviction que j'en ferais mon métier. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui me passionnait dans la céramique. Et comme je suis aussi passionnée de funéraire, le projet vraiment d'allier les deux se construit au fur et à mesure. Et là, sur 6 ans, évidemment, j'ai eu plus d'hésitation parce que créer une entreprise, c'est quand même... il y a plein de défis qu'il va falloir relever. Donc, quand on décide de sauter le pas, faut être prêt.
En fait, j'imagine qu'il y a quand même une étape entre « je quitte mon travail, je vais vivre de la poterie », le fait d'avoir ton atelier, d'acheter un four, que ça se fait en combien de temps, tout ça ?
Alors, donc moi, je suis restée 6 ans salariée. Entre 2014, j'ai commencé à travailler. J'ai mis plusieurs années avant de me décider à me lancer dans des procédures pour activer mon CPF, en fait, pour être formée au tournage céramique.
Ah.
Et ça, pour moi, c'était la première étape.
Bah oui.
Voir si la technique de production autour de potier, donc qui permet de faire de la moyenne série, de la petite de la moyenne série, elle me plaisait, si je pouvais la maîtriser et si ça pouvait être viable dans l'entreprise que je voulais créer. Et pour activer son CPF, en tout cas à l'époque, j'ai dû passer par une procédure qui a duré une bonne année et demie. Déjà, j'étais accompagnée pour faire un business plan. Ensuite, j'ai monté un dossier pendant plus de 6 mois pour convaincre la Commission Bretagne que mon projet était viable.
Mmh.
Ça m'a permis de partir. J'avais trouvé une école de poterie en Normandie. Je suis partie 6 mois. J'étais toujours salariée, donc je percevais toujours mon salaire. Et quand j'ai fini ma formation au bout de 6 mois, j'ai pu revenir en tant que salariée dans l'entreprise, le temps de faire les démarches pour démissionner.
D'accord. Ton employeur était plutôt aidant, alors aussi t'as accompagné dans ton nouveau projet.
Oui. Et moi, il a accepté tout de suite parce que j'avais déjà expliqué mon projet plusieurs mois avant. Et qu'en fait, comme c'était aussi pour travailler dans le funéraire, tout ça, bah, il y avait...
Une cohérence quand même.
Ouais. Ça leur plaisait bien.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des clients à toi ?
Alors, c'est des clients, oui, parce que... Donc, c'est un regroupement de pompes funèbres. Et moi, je suis un de leurs fournisseurs intégrés à leur catalogue. Ça a été un petit peu un petit coup de pouce de leur part, en plus, le réseau, comme on dit, en fait. De se faire aider par les gens qu'on connaît quand on... lance son entreprise. Ce qui est assez important.
Ah oui. Et donc, tu as aménagé ce petit espace. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grands travaux. Je pense par contre au four. Je ne me rends pas compte. Déjà, il fait quel volume ?
C'est un 300 litres.
Je me demande bah, combien ça coûte un four comme ça ?
Alors, quand je l'ai acheté, c'était environ 6000 euros. Et aujourd'hui, faut compter pour un four vraiment comme ça, 9000 balles.
C'est vraiment ton plus gros investissement, en fait, pour débuter dans la poterie.
Oui.
C'est le four, quoi.
C'est le four. Après, on peut aussi, s'il y a d'autres potiers qui sont installés en local, faire des fours communs, s'ils sont déjà équipés. Et puis, on peut aussi acheter en seconde main, c'est moins cher.
Oui. On est dans un petit atelier qui est à quelques mètres de votre maison. Et il servait à quoi cet atelier avant alors ?
Cet espace exactement, sous le parquet, il y a une dalle piscine. Donc si jamais je ne suis plus potière un jour, bah, il y aura une piscine.
On peut dire que t'as un grand vide sanitaire sous tes pieds.
Exactement. C'est pas très rassurant d'ailleurs.
Donc quand t'as décidé de te lancer dans la poterie, donc t'as cette maison, cet atelier, chouette. Du coup, tu investis 6000 euros dans un four. Et comment tu décides? Bon, tu connaissais déjà ton domaine, tu savais que tu voulais aller vers le funéraire. Comment tu choisis quelle terre tu vas travailler? Et puis finalement, tu n'as pas fait que du funéraire en plus.
Alors, pour ce qui concerne la terre, j'avais pu en tester différents types à l'école. Et la terre que j'ai choisie était aussi liée à ce que je voulais faire dans le funéraire. Donc je produis des urnes blanches qui sont non émaillées, qui sont mates. Et la terre, elle est beige. Donc ça rend un rendu assez sympa. Ce que j'aurais pas eu si j'avais pris une terre plutôt brune. Donc c'est ça un petit peu qui a guidé le choix de la terre. Plus le fait qu'elle est très agréable à tourner. Et toutes les terres ne le sont pas. C'était quoi ton autre question?
Que finalement, tu n'as pas fait que du funéraire.
Au début de l'entreprise, j'ai décidé de ne pas faire que du funéraire. Tout simplement pour que l'entreprise soit viable et que j'ai tout de suite des entrées en chiffre d'affaires. À côté de l'atelier de poterie, j'étais designer funéraire freelance. Donc là, par exemple, mon ancien employeur avait des missions à me donner ponctuellement. J'ai trouvé ensuite, en réseautant sur LinkedIn, d'autres fabricants qui avaient besoin d'un designer. Et à côté de ça, le temps de prototyper mes urnes et d'être satisfaite de leur forme, j'ai décidé de faire plein d'autres choses, donc vendre de la céramique non funéraire et donner des cours. Des cours loisirs de poterie, modelage et tournage. Ça, aujourd'hui, j'ai arrêté parce que la production funéraire a pris énormément de place et j'ai vraiment plus le temps. Mais ça m'a permis, pendant 2 ans, de stabiliser les revenus de l'entreprise. Et de pouvoir continuer sans avoir à prendre un side job à côté, un travail alimentaire qui aurait en fait pénalisé le développement de l'entreprise funéraire.
Quand tu faisais des cours, est-ce que tu accueillais tout le temps les gens dans ton atelier?
Alors, j'avais deux formules en fait. La première, la plus importante en effet, c'est que je recevais des cours sous différentes formes. J'avais les cours du soir, ensuite j'avais les stages ponctuels durant l'année. Et ils venaient faire 3 heures de découverte. Souvent, ils avaient le temps de modeler deux bols. Et puis après, je leur faisais une initiation au tournage. Donc souvent, j'avais des gens qui me disaient « je vais faire un pichet ». Sauf qu'en fait, le tournage, c'est très compliqué. Donc, ils finissaient avec une mini tasse expresso un peu bancale. Mais c'était génial parce que c'était beaucoup de partage, de créativité qui se débloquait aussi... surtout chez les adultes. Et ces stages, je le faisais aussi pour les enfants, où là, on se concentrait vraiment sur le modelage. Et eux, ils n'avaient pas besoin d'aide pour la créativité. C'était très impressionnant. Et à côté de ça, du coup, je faisais aussi des ateliers en milieu scolaire. Donc, j'ai fait en collège et en lycée. Où là, bon, il était plus question de parler, surtout pour les lycéens, aussi de l'orientation après le bac. Qu'est-ce que c'était que le métier de designer, comment ils pouvaient entrer dans des écoles d'art si ça les intéressait, et les possibilités en termes d'emploi après. Et puis on faisait ça aussi du coup par le biais de la céramique et de toute la créativité que ça permet. Donc c'était très très sympa aussi.
C'est assez fou de se dire que tu as peut-être révélé chez certains enfants des passions et une orientation professionnelle.
Bah, je me souviens, il y a même une élève, elle, qui était très motivée pour rentrer aux Beaux-Arts de Rennes, il me semble. Et elle m'avait montré son portfolio qu'elle devait présenter à un jury. Donc, je l'avais aidée à le réaxer un petit peu, parce qu'il était déjà très bien. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas du milieu artistique, on ne sait pas exactement ce que des professeurs vont attendre. Voilà. Mais ouais, je lui avais donné quelques conseils, je me souviens. Et je me dis peut-être que...
Bah oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette jeune fille
en art.
Et certains adultes se découvraient des talents cachés parfois ou...
Oui.
Ouais, ça arrive.
Ça, c'était cool parce que chez les adultes, il y a vraiment tout type de profil. Il y a les très créatifs qui ne font pas forcément de métier créatif, Donc là, ils sont en roue libre, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui sont un peu hâtifs dans leurs gestes, on voit qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler manuellement, ce qui me rappelle beaucoup moi avant de faire ma formation en céramique. Donc là, je surveille un peu plus parce que on a vite fait de casser sa pièce. Et puis, il y a ceux qui sont très minutieux.
Je ne vois pas de qui tu parles.
Et qui peuvent passer de longues heures sur une pièce, par exemple un beurrier.
Tu sais que je l'utilise tous les jours, mon beurrier.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Tous les jours. Donc je pense à toi tous les jours, Anaïs.
Génial. Et je suis contente qu'il fonctionne, qu'il ait bonne dimension et tout. Donc ces gens très minutieux peuvent se lancer dans des pièces très techniques, avec des dimensions où il ne faut pas déroger d'un millimètre. Et là, il faut...
faut les encourager.
Faut les encourager, c'est sport.
Ouais. Ok. Donc de toute manière, tu ne fais plus de formation maintenant. Tu n'as plus du tout le temps ?
Non, j'ai plus le temps. J'ai eu d'autres demandes. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés, surtout quand on est en milieu rural. En fait, je trouve ça vachement cool de pouvoir proposer de la poterie. Et surtout qu'à Plouane, moi, j'étais surprise un peu quand je me suis installée, mais il n'y a pas d'activité artistique, en fait. Je crois qu'il y avait un cours de dessin pour les enfants à l'époque, mais pour nous, les adultes, rien du tout. Donc, j'étais contente de pouvoir le proposer. Et après, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et des rondelles, de chagrin de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure là dans le cœur des arbres en fleurs. Par centaines des magnolias, comme autrefois, mais je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure là dans le cœur des arbres en fleurs.
Je me dis, c'est vraiment deux métiers différents, parce que quand je t'imagine toutes ces journées, ces heures à être toute seule dans ton atelier, c'est un métier quand même assez solitaire. Et quand tu accueilles des formations, à la fois ça doit être agréable de rencontrer des gens, mais c'est peut-être aussi, faut avoir l'énergie aussi de recevoir des gens en fonction du tempérament qu'on a. Est-ce que c'est plutôt quelque chose du coup qui te va, toi, d'être toute seule dans ton atelier, qui te correspond?
J'ai un peu les deux profils, étrangement. Ça me gêne absolument pas d'être toute seule. Je mets ma musique, je me parle à moi-même, tout va bien. Je produis mes urnes ou autres produits, et ça dépote. Donc je vois pas les journées passer. Et puis, j'ai aussi pas mal de rendez-vous professionnels, donc liés au milieu du funéraire. Donc, ça me permet quand même de parler à des vrais gens. Et puis, quand je donnais des cours, et en particulier les cours du soir, c'est vrai que t'enchaînes après ta journée de travail, donc il faut avoir de l'énergie. Mais ça, j'en ai, donc ça va. Et ce qui était un peu difficile parfois, c'est qu'en effet, il faut juste passer du mode solo, où on pense à beaucoup, beaucoup de choses, à celui, je suis là pour les aider, je suis là pour qu'elles passent un bon moment, et on oublie le reste. La difficulté était plus là. Après, le fait de papoter, de donner des conseils, ça, c'était très plaisant.
Tu n'as pas parlé des marchés, parce que du coup, c'était ton unique moyen de vendre ta poterie au début ou...
Je vendais de la poterie utilitaire, donc par exemple des tasses, des bols à ramen, des vases, le tout dans des couleurs et des émaux que j'ai créés à l'atelier.
C'est un jargon que tu vas devoir nous expliquer, Anaïs. Qu'est-ce que des émaux que je crée à l'atelier ?
Alors, l'émail, c'est une fine couche de verre qui est déposée sur toutes les céramiques, aussi bien sur nos assiettes que sur nos tasses à café, sur nos mugs. C'est la couche brillante, en fait, qu'on voit sur toutes les céramiques. Couche brillante qui peut aussi se révéler mat selon les recettes qu'on fait. Ouais. Sans trop rentrer dans les détails, ce que je peux te dire sur l'émail, c'est que c'est du verre en très fine couche. Donc l'émail est composé en majorité de silice, en plus d'autres minéraux. À l'atelier, on va créer des couleurs en ajoutant des oxydes métalliques. On cuit ensuite à très haute température pour révéler la pièce finale et la couleur finale. Et ces émaux, on peut les acheter chez des fournisseurs céramiques. Ça coûte cher. Du coup, la meilleure solution pour un artisan, c'est de les fabriquer soi-même à l'atelier. Et c'est ce que tu as tout autour de toi, donc les bacs remplis de silice, de feldspath, de kaolin. Et je mélange tout ça pour faire les couleurs qu'on peut retrouver et qu'on pouvait retrouver aussi à l'époque sur les marchés et au Anahana. Il y a deux cuissons. Alors, une fois qu'on a façonné sa pièce, que ce soit en modelage, donc à l'aide de ses mains, ou au tournage, donc sur un tour de potier, il faut laisser sécher la pièce pour qu'elle évacue toute son eau. Ensuite, on la met dans le four céramique, elle fait une première cuisson qui va solidifier la terre. Une fois que ça s'est fait, on va passer donc à l'émaillage, donc la pose du décor. Alors, il y a plein d'autres techniques comme l'engobe aussi qui permet de poser un mélange de terre et de colorant pour décorer sa pièce.
C'est comme de la peinture.
Un peu comme de la peinture. Et là, ça va dépendre de chaque céramiste. Tout le monde a ses techniques, tout le monde a un style différent. Moi, je fais surtout de l'émaillage, je ne fais pas trop d'engobe, bien que ce soit très plaisant à faire. Ça illustrerait l'illustration, en fait, l'engobe. Avec l'émail, on est plus sur des grands aplats de couleurs. Et donc, une fois qu'on a posé soit émail, soit son engobe, on va refaire une cuisson. Et là, on a sa pièce finale après la cuisson. L'engobe peut se mettre avant la première cuisson. Il y a différentes techniques. Et puis, on peut obtenir plein d'autres effets, comme le raku, qui est une technique qui est assez connue maintenant. Et ça, c'est une cuisson en enfumage, en extérieur, qui est assez impressionnante et qui donne des effets que je peux pas moi obtenir avec mon four électrique.
C'est très intriguant, j'arrive pas à imaginer en enfumage.
Ouais, alors faut imaginer, il y a le four extérieur, donc c'est un four à gaz ou à bois. On met la pièce dedans, elle chauffe dans les 900 degrés, si je dis pas de bêtises. Elle chauffe très très fort d'un coup, on va la sortir. Ensuite, on va la balancer dans la paille. On peut mettre d'autres choses, des bouts de ficelle, des plumes, tout ça. Et ensuite, au bout de quelques minutes, on la reprend et on la plonge dans de l'eau froide.
Choc thermique.
Voilà, choc thermique. On va entendre, ça va craquer. Et la pièce qu'on sort après, elle est pleine de cendres. Il faut la nettoyer, il ne faut pas se brûler. Et on obtient en fait une pièce qui a des couleurs très particulières, des craquelures. Et chaque pièce en fait va être unique et très artistique. Donc voilà. Moi, c'est un four à poux, j'aimerais beaucoup en avoir un dans les années à venir.
Du coup, dans ton atelier, parfois il fait hyper froid et parfois hyper chaud. Mais heureusement, oui. T'as un petit poêle de secours.
J'ai mon four qui chauffe quand il est en cuisson. Et là, on a une ambiance tropicale, 27 degrés au moins, je pense.
C'est hyper agréable, non?
Oui, j'adore. Le problème, c'est que ça peut aussi, selon les cuissons, on peut avoir des dégazements de produits un peu nocifs. Et on est censé beaucoup aérer. Donc, je le fais pas. Ça dépend de ce que je cuis, quoi. Parfois, ça sent fort. Tu sais tout de suite, tu dis, ah non, je vais pas faire... Je vais pas travailler là aujourd'hui, je vais travailler à mon bureau. Mais ouais, sinon, pour me chauffer, j'ai mon petit poêle à granulés que j'avais récupéré gratuitement dans ma famille.
Trop bien.
Et puis après, il fait très très froid, sinon le reste du temps, en vrai. Et la meilleure période, c'est en été. Il fait bon, les céramiques sèchent très très vite. Par exemple, une urne met une semaine à sécher grand max en été, alors qu'en hiver, je suis sur... un mois et demi.
Ah ouais. Et je découvre une nouvelle technique. Là, j'avais jamais vu la dorure. Tu ouais. ajoutes ça après.
Alors ça, c'est une troisième cuisson. Une fois que la pièce a été émaillée, on peut poser de l'or sur l'émail. Enfin, qu'elle a été émaillée et cuite, on peut poser de l'or liquide sur l'émail. Et après, on refait une troisième cuisson. Et là, l'or se révèle. Pour le coup, là, il y a vraiment une très très forte odeur durant la cuisson parce que c'est très toxique. Mais ça donne de superbes couleurs.
Ah oui. Mais quand tu dis l'or se révèle, ça veut dire qu'au moment où tu l'appliques, c'est pas du tout doré ?
Non, on dirait plutôt du caramel fondu.
Ah oui.
Et là, c'est très difficile à poser parce qu'il faut en mettre assez, mais pas trop. Sinon, ça coule. Si on n'en met pas assez, ça va avoir une couleur un peu gris. Pas jolie du tout, la pièce elle sera ratée, quoi. Et en plus de ça, une fiole de 5 grammes d'or, ça coûte très cher.
Ah oui.
Le premier prix, ça va être dans les 90 euros. Et ça va jusque dans les 200 euros. Donc on n'a pas trop envie de se rater.
Et en plus, le processus est tellement long que quand tu te retrouves à cette troisième étape et que là, tu te dis, mince, j'en ai trop mis. Alors, si t'en as pas assez mis, peut-être que tu peux recommencer encore. Non, pas trop. T'es obligé de rejeter ta pièce.
Ouais. Ou tu la vends comme ça. Un défaut ouais. pour un céramiste peut être très joli pour quelqu'un ouais. qui n'est pas céramiste, en fait.
Oui, ça reste de l'art. Ouais. Donc, tout est subjectif.
Nous, on voit ça comme des défauts, mais... Ouais. J'ai beaucoup de pièces ratées, en fait, que...
Qui plaisent,
ouais.
Mais j'imagine que ça doit avoir un succès fou, ça, non?
Ouais, alors là, je l'ai surtout développé pour la partie funéraire. Et j'aurais pas le temps d'en poser sur les pièces pour Noël. Mais j'ai pas mal d'amis céramistes qui pratiquent un petit peu comme ça la pose d'or. Et ça a énormément de succès. Parce que tout de suite, une pièce qui peut être un peu banale va devenir exceptionnelle. Mais la pose de l'or est très compliquée. Si on ne veut pas qu'il y ait de coups de pinceau visibles, que l'épaisseur soit vraiment homogène, il faut pratiquer beaucoup.
Donc ça veut dire que c'est aussi des pièces que tu peux vendre un peu plus cher. Donc c'est peut-être aussi un haute gamme de produits.
Ouais. Oui, ça permet aussi d'augmenter un petit peu le prix d'une pièce. Ce qui, en soi, n'est pas... je veux dire, honteux, parce que en fait, la pose d'or, c'est plusieurs heures de travail. Plus la toxicité que, même si on est protégé avec des masques, des gants et tout, on se met en danger, en fait, en tant que céramiste.
Tu te mets en danger. Ben non, mais c'est important de le dire. C'est vrai, moi, je réalisais pas du tout, même quand tu me parles des cuissons, des gaz qui s'y échappent, j'aurais pas imaginé. Et donc, tu poses l'or avec un masque, alors?
Oui. Mais c'est des gros masques, vraiment, qui laissent des grosses marques sur les joues, c'est un plaisir. Et c'est pareil dans les émaux, le cobalt, le cuivre, c'est ultra toxique. Le manganèse aussi. Donc là, il faut faire hyper attention. Moi, j'ai développé des émaux où il n'y a pas d'oxyde métallique colorant toxique. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je manipule, quand je pose l'émail. Il faut bien imaginer, en fait, quand on plonge une pièce dans un seau rempli d'émail pour qu'elle soit totalement nimbée, en fait, il y a toujours des petites éclaboussures. Alors, il n'est pas rare de se prendre une goutte genre au coin de l'œil. Donc, quand c'est pas toxique, pas de souci. Quand c'est une goutte pleine de cobalt, donc c'est ultra cancérigène, je me sens moins bien. Mais après, ces oxydes dangereux, cet or dangereux, donne des couleurs incroyables. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de céramistes qui les emploient, et moi aussi de temps à autre. Je ne résiste pas. Et après, là, je sais, par exemple, les nouveaux gros défis que je vais avoir qui concernent plus le funéraire, c'est qu'il y a des professionnels, donc des pompes funèbres, qui ont plusieurs agences, qui ont des besoins assez conséquents en termes d'urnes, et qui peuvent d'un coup me dire, bah, on vous en achète 30. 30, c'est mon stock. Donc si le stock n'est pas plein, et j'ai d'autres clients, eh bah, on va avoir un petit problème. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, mais ça va demander des délais de production, ça va demander de tourner beaucoup. Et tourner des urnes de 3 kg, c'est pas pareil que tourner une tasse de 250 grammes. C'est très fatigant. Donc ça pose plein de nouvelles questions, de nouveaux défis, comment faire.
T'arrives à en tourner combien dans une journée, des urnes de 3 kg par exemple?
Alors ça c'est intéressant parce que en début d'année, j'en faisais pas plus de 3-4. Et c'était énorme pour moi. J'étais crevée à la fin de la journée. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une journée où j'en ai tourné, je crois, 8. Donc d'un coup, en fait, j'ai passé une étape dans mes compétences. Je me suis améliorée, mais sans le voir. Et j'ai été capable de doubler ma production. Je crois qu'on dit qu'un potier, donc tourneur autour de potier, il est 20% de son temps autour, en fait. Et le reste, c'est la gestion de l'atelier, les autres étapes de fabrication ou la gestion d'entreprise. Et en fait, c'est ça, c'est vrai. Donc en fait, ma production, je ne peux pas non plus trop l'augmenter. Mais je sais que ça va se faire aussi avec le temps parce que faut bien imaginer qu'on dit qu'un tourneur autour de potier devient vraiment bon au bout de 10 ans de tournage quotidien et intensif.
Tu y es bientôt quand même, non ?
Ça fait que 3 ans que je tourne vraiment à temps plein. Je suis encore un bébé potier. mais je vois déjà tout le chemin parcouru. Et c'est ça, je pense, qui est important aussi quand on monte sa boîte ou qu'on se lance dans un domaine créatif comme ça, c'est de voir le chemin qui est en train de se faire et qui a été parcouru. Et c'est ça, en fait...
hyper satisfaisant.
Ouais. C'est tout ce qui se construit et tous ces micro-efforts qu'on fait par-ci par-là et qui en fait à la fin on fait gravir la montagne. L'une des montagnes.
All the impossible attempts.
deux ans, là, tu t'imagines de faire, par exemple, que du funéraire?
Ouais, moi, mon idée, c'est vraiment de faire que du funéraire, bien que je pense que j'aurais du mal à abandonner complètement la production des petites tasses, des bols à ramen, tout ça, parce que c'est aussi la récré. Mais ma réalité d'entrepreneuse, c'est que pour avoir une entreprise viable, il faut que je fasse rentrer de l'argent, tout simplement. Et mes meilleurs clients, c'est mes pions funèbres. Bon, en plus, j'adore ce domaine, j'adore faire des urnes. Donc, il va falloir que j'augmente la production pour rendre l'entreprise vraiment viable. Voilà.
Donc, ça veut dire que derrière, il faut les écouler aussi, toutes ces urnes.
Toutes ces urnes, oui.
Ça, c'est la partie business.
Qui entre en jeu.
Et qui a l'air de bien fonctionner en ce moment, du coup.
Bien fonctionner. Alors, ça a été beaucoup de travail sur 2 ans où j'ai beaucoup réseauté. Je pense que c'est la clé de chaque entreprise qui se lance, en fait. Donc, moi, j'avais déjà un réseau de base. Je connaissais des gens aussi qui travaillaient dans mon ancienne entreprise et qui sont partis. Donc, mais à qui je m'entendais très bien et continuer dans le funéraire. Donc, ça permet d'étendre son réseau. Et puis, je me suis vachement axée sur le réseau social LinkedIn, donc qui est spécialisé dans le B2B, donc le business to business, le professionnel. Et avant de créer mon entreprise, j'avais un profil où j'avais mis mon CV, comme tout le monde. Et maintenant, je poste 2 fois par semaine sur ce réseau. Je montre le quotidien de l'atelier, je montre les urnes, je demande leur avis aux pompes funèbres. Et en fait, il y a plein de pompes funèbres sur ce réseau-là qui cherchent de la nouveauté, qui cherchent des produits qui sont beaux et qui changent de ce qui existe sur le marché et qui sont friands, en fait, de voir des fabricants français, des petits artisans qui se lancent dans le funéraire. Et puis moi, du fait que je suis déjà dans le funéraire, je connais très bien ce marché, je peux facilement discuter avec eux. Je sais exactement leurs besoins. Ça, c'est le travail du designer. Connaître les besoins de sa cible pour créer un bon produit.
Comme connaître le volume des cendres.
Totalement. Totalement. Mais ça, c'est une réalité. Je connais quelques céramistes comme ça qui font des urnes de manière ponctuelle. C'est pas leur cœur de métier, le funéraire, mais qui, les premières urnes qu'ils ont fait, ben, en fait, n'étaient pas exploitables parce que la contenance était trop faible. Et en France, on a une législation très forte en ce qui concerne le funéraire. Et il faut respecter quand même plusieurs choses.
Peut-être la largeur aussi pour faire rentrer les cendres quoi, dedans.
Je révèle tous les secrets. Tous les secrets un peu obscurs. Totalement, il y a des dimensions à garder en tête parce qu'il faut que ça rentre souvent dans les cimetières, donc dans différents espaces qui peuvent être les columbariums ou les caveaux familiaux. Donc là, hauteur et largeur doivent être quand même assez bien calibrés. Ce qui est intéressant avec la céramique, intéressant et complexe, c'est que la terre, quand on la façonne, après elle va perdre de l'eau, elle va se réduire à la cuisson. Et une grosse pièce de, disons, 20 cm de diamètre pourrait faire à la fin plutôt 16.
Ah oui, donc il faut anticiper tout
voilà.
Ça.
Il faut très bien connaître sa terre, puisque toutes les terres ont des pourcentages de rétractation différents. Et ça, en plus, ça peut jouer sur les mailles qu'on va poser dessus.
Mais par contre, tu disais tout à l'heure que tu posais pas des mailles sur tes urnes. Mais je me demandais, il y en a qui sont dehors, du coup, comment elles vieillissent?
Alors, les urnes en céramique, elles sont plus faites pour être gardées
à l'intérieur.
À l'intérieur, ouais. Donc, dans des columbariums ou dans des caveaux. C'est pas des urnes qui peuvent être scellées sur une tombe, par exemple. Et moi, j'ai choisi de ne pas poser des mailles parce que je voulais vraiment avoir une urne très sensorielle. Donc, quand une famille vient de perdre quelqu'un, qu'elle puisse s'approprier un petit peu l'urne, donc la toucher, tout simplement. Avoir un toucher doux, avec une céramique mate comme ça, donc sans émail, ça va vite chauffer la surface. Donc, on a un rapport beaucoup plus humain, en fait, avec l'objet. Sachant que, du coup, ça va être la dernière demeure. Donc pour moi, c'était important de ramener ce contact-là. Et puis, surtout, de pouvoir, en fait, comme sur une toile blanche, venir dessiner ou écrire un petit message.
Ah, il y en a qui écrivent sur les urnes.
C'est l'un des concepts. C'est pas forcément qu'on peut les garder comme ça, avec leur petit côté blanc, MDR.
Surtout si ça part au caveau.
Voilà.
Ouais.
Donc ça va vraiment dépendre des gens. Il y en a qui veulent pas du tout, il y en a qui le souhaitent. Mais les pompes funèbres, elles ont besoin de nouveaux produits comme ça, en fait. Parce que, bon, les urnes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché...
Il y en a qui sont en carton, même, non ?
Ouais, carton. Ça, c'est une très grande tendance, maintenant, et qui est beaucoup apprécié des familles, parce qu'en fait, on fait beaucoup de dispersion de cendres en pleine nature, et après, l'urne n'est pas gardée, en fait. Donc, les familles ne veulent pas mettre un prix trop exorbitant dedans. Puis la majorité, après, des autres urnes, donc ça va du plastique à la résine, en passant par le laiton et le granit, bien sûr. Et on a des styles vraiment très, très chargés, des couleurs plutôt... criarde, j'ose le mot. Ça, c'est la designer couleur en moi qui parle. Mmh. Et surtout, on peut dire que 98% de la fabrication vient d'Inde ou de Chine.
Ah oui.
Voilà. On a quelques urnes, quelques fabricants européens qui maintenant sont sur le marché français. Et puis, on a, comme moi, quelques fabricants français. On est une petite dizaine à avoir innové, à avoir bâti nos entreprises.
Et c'est rigolo, ça me fait plaisir de t'entendre parler du funéraire parce que je me souviens, les fois où tu en parles aux gens, c'est comme si t'anticipais leur gêne un peu. Et tu y vas un peu à tâtons.
Mais en fait, le truc, c'est que je suis intarissable sur le sujet. mais j'ai toujours peur qu'en fait, la personne à qui je vais m'adresser, si elle n'est pas du milieu, ça puisse un peu la choquer déjà. Et surtout qu'elle ait eu un deuil récent. Et qu'elle n'ait pas du tout envie de parler de funéraire, beaucoup d'a priori sur les pompes funèbres, sur les tarifs qu'elle pratique. Donc, ça peut aussi amener des discussions hyper intéressantes.
Ah oui, j'en doute pas.
Mais ça m'est arrivé en fait qu'une fois d'avoir une personne qui s'est refermée comme une coquille tout de suite, et je pense qu'elle avait eu, supposition, un deuil récent. Donc j'ai pas insisté, on a tout de suite changé de sujet. Mais c'est peut-être mon élément traumatique et depuis...
Ah oui. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et tu sais pas pourquoi t'as été attirée par ça toute jeune, parce que c'était en fin d'études, donc tu devais avoir 22 ans.
Ouais. Je me souviens assez bien. En fait, je cherchais un domaine où je pourrais axer un petit peu tous mes devoirs de design. Et surtout, quand on crée un objet, et surtout en études, on a deux périodes. Il y a la période d'analyse du projet et après il y a la période de création de l'objet. Dans la période d'analyse, tu dois souvent faire beaucoup de recherches sur le secteur, sur le domaine. Et du coup, moi, je cherchais un domaine où je ne connaissais rien, où j'avais tout à découvrir et surtout qui était pas du tout exploité. Voilà. Parce que souvent, on tourne quand même toujours autour des mêmes thématiques. En design, on va faire du mobilier, en fait. Ce qui est vachement chouette. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, mais j'ai peut-être un esprit un peu gothique aussi.
Est-ce que tu étais gothique plus jeune ?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'étais une fanatique du jaune et du rose. Super look. Mais je pense qu'en mon âme intérieure, oui.
Mais c'est bien, ça contraste.
J'ai un petit cœur noir. Et tout ça mélangé, mais en fait, je me suis dit, mais le domaine du funéraire, les objets sont très très laids. On n'en parle jamais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et j'ai commencé à gratouiller comme ça. Mais mes projets d'étudiante n'étaient pas très bons. Mais après, ça m'a permis d'axer mes deux mémoires, donc de Master 1 et de Master 2, sur le sujet. Et là, c'était passionnant. Parce qu'en fait, le funéraire, évidemment, la mort fait partie de nos vies. On va tous y être confrontés, on va tous mourir aussi un jour. Et on en parle dans tous les milieux et dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux culturels. Et tu peux retrouver des images de mort dans des peintures très anciennes, des livres qui parlent du sujet. Et en fait, ça touche... Enfin, moi, je la vois partout.
Et à la fois, ça reste très tabou pour de nombreuses personnes.
Et d'ailleurs, c'est aussi ça que je trouve aujourd'hui passionnant dans le domaine funéraire, c'est qu'il y a énormément de nouveaux métiers en dehors du mien. On voit beaucoup ce qu'on appelle des accompagnateurs de deuil, On les connaît aussi sous le nom de Tanadoula. Il y a différents types de métiers, mais je pense que celui-là, c'est peut-être celui qu'on peut entendre plus facilement parler. Donc, c'est des, comme les doulas de naissance.
Ouais, ouais, c'est... je ne connaissais pas ces
noms. Et bah, tu as des gens qui se spécialisent dans le passage et dans les rites qui ont plus trait à la fin de vie, au travail du deuil, à l'accompagnement de ceux qui restent.
Mais ils débutent leur travail une fois que la personne est décédée ou ça peut être en soins palliatifs
Ouais, ça peut totalement être ça.
Ah ouais.
Et c'est, en fait, c'est passionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des pros de ce domaine-là. Et tu sens qu'ils font un métier clé qui a vraiment une importance parce que tout le monde ne va pas en avoir besoin ou tout le monde ne va pas vouloir parler de ce sujet-là. Mais ceux qui le souhaitent, ils vont trouver vraiment maintenant des professionnels qui sont formés pour trouver les mots, pour les accompagner. Ça peut être dans des démarches administratives ou juste dans la gestion de leur deuil. Et ça, je pense que c'est très, très précieux. Mmh. Surtout dans un monde où tout va très vite et où le tabou de la mort est quand même très, très fort encore. Voilà.
En termes de domaine funéraire, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de crémations. De moins en moins de personnes... demande à être enterré, donc pour ton business.
Eh bien.
Mais tu veux dire, en tout cas, ça ne peut que être positif pour l'avenir de ton business.
Totalement. Alors, faut savoir que moi, quand j'ai décidé de me spécialiser dans les urnes funéraires, j'avais bien conscience qu'en effet, maintenant, en France, on est à peu près à 50-50. Donc 50% de personnes qui choisissent l'inhumation et 50% qui choisissent la crémation. Sachant que la crémation, c'est un chiffre qui est en augmentation. Et du coup, je savais très bien que pour les urnes, il y avait un besoin. Après, il y a d'autres manières de dire au revoir aux défunts qui commencent à émerger, qui sont des techniques encore interdites en France, mais qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens. Donc, par exemple, je peux vous citer l'humisation.
Ah oui.
Donc ça, c'est une inhumation en pleine terre, mais en fait, on est recouvert... d'humus qui vont permettre de décomposer le corps.
C'est du compostage accéléré.
Ouais, c'est exactement ça. Mm. Donc ça, c'est totalement interdit en France pour le moment, mais il y a des tests qui sont faits en Belgique, donc de toute manière, la législation va évoluer. Et là, je vendrai moins d'urnes. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, en France maintenant, donc il y a beaucoup de crémation, donc soit on n'a pas le droit de garder l'urne chez soi maintenant, donc il faut la déposer au cimetière, mais on a aussi beaucoup de dispersion. Et donc soit dans le cimetière, dans un jardin du souvenir, soit en pleine nature. Et ça aussi, ça pose la question de l'après, donc où est-ce que les proches peuvent se recueillir. Mmh. Et c'est une problématique qui se pose vraiment aujourd'hui. Les pompes funèbres notent vraiment qu'il y a, il y a un besoin des familles de se recueillir, sauf qu'en fait, elles sont dispersées les cendres, il n'y a plus d'espace.
Parfois, il y a peut-être une difficulté dans le deuil... À la suite de la cérémonie, quoi.
Oui. Mm. Et ça pose des questions où moi, en tant que designer d'objets et céramiste, je peux essayer de créer quelque chose qui peut aider, à mon échelle, bien sûr, une famille qui aurait besoin d'un espace de recueil. Mm.
Je suis curieuse d'imaginer la plus grosse pièce que tu aies pu faire.
Bah du coup, c'est un modèle d'urne que je produis qui est ma plus grande pièce, je crois. Celle qui est un peu en forme de 8, de bonhomme. Mmh. Et ça, c'est une pièce complexe parce qu'elle est faite en deux parties. Donc deux...
Tu tournes deux fois.
Je tourne deux
et
fois
tu et assembles.
Après, je les superpose, voilà. Mmh. Et c'est ma pièce la plus haute, je crois qu'elle fait une trentaine de centimètres quand elle n'est pas cuite. Et après, bon, c'est les élèves qui venaient en modelage, hein, qui faisaient les pièces les plus grandes.
Quand je t'ai appelée il y a 15 jours, tu me disais que tu étais à un salon à Lyon.
C'est des salons réservés aux professionnels du secteur. Y aller, pour moi, ça permet à la fois de faire de la veille en tant que designer produit. Donc, je peux vraiment voir tout ce qu'il y a comme nouveauté. Pas que sur les urnes, sur tous les autres types de produits aussi. Et sur les autres types de services. Et puis, ça me permet aussi de parler avec plein de nouvelles personnes. De voir avec qui on peut créer aussi des collaborations. Et par exemple, là, sur ce salon, j'ai fait un partenariat avec un grand fournisseur français. On a créé...
une urne pour les enfants. Donc voilà, sur un sujet assez difficile, moi j'ai tourné un modèle d'urne. Ils ont ajouté une plaque, donc qui est posée sur un monument funéraire. Et puis une troisième entreprise, elle, a créé un bijou que les parents peuvent garder.
C'est vrai que c'est dur hein, quand ils pensent d'imaginer une petite urne là, pour un enfant. Mmh. Ouais. Et en même temps, j'imagine, pour le coup, là, les parents, ils ont besoin d'un endroit pour se recueillir et de garder un bel objet comme ça qui symbolise aussi leur enfant. Ouais.
Totalement. C'est des deuils vraiment très, très douloureux et très particuliers. Et même si, heureusement, il n'y en a pas tant que ça, et ben, quand ça arrive, souvent, les produits qui existent aujourd'hui sur le marché ne sont pas vraiment adaptés à la peine que va ressentir la famille et encore plus les parents. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui me motive énormément à travailler dans le funéraire et à être artisane, c'est que quand je tourne une urne, je sais à quoi ça va servir. Je sais que ça va accompagner à son échelle, évidemment, des familles. Et là, il y a quelque chose de bien plus fort que de tourner de la vaisselle, en fait.
Ouais, ça a du sens.
Il y a un sens plus profond et je pense qu'aussi c'est un peu ça qui m'a amenée à travailler dans le funéraire. Mmh.
Je crois que tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu utilises comme réseau social et aussi peut-être profites-en pour nous dire sous quel nom on peut te retrouver.
Ok. Alors moi, j'utilise deux réseaux sociaux, deux canaux de diffusion. Le premier qui concerne le funéraire exclusivement, c'est sur LinkedIn, où là, on peut me retrouver sous le nom Anaïs Zatar. Et le nom de mon atelier qui est spécialisé dans le funéraire, c'est l'atelier Urn and Design. En bon français, l'atelier urne et design. Et pour tout ce qui concerne la céramique non funéraire, là, on peut me retrouver sur Instagram avec le compte de l'atelier Azclay, A-Z-C-L-A-Y, puisque clay en anglais, ça veut dire argile. Mais si vous tapez anaïs.zatar.céramique, vous allez tomber sur le compte Instagram aussi. Et là, j'y parle vraiment du quotidien de l'atelier, en milieu rural, en local, comment je fabrique. Je m'intéresse pas qu'au funéraire, je montre aussi autre chose.
Merci beaucoup Anaïs, je pense qu'on a fait le tour.
Merci à toi.
Je te souhaite plein de réussite, bonne continuation, plein de commandes. Et moi, j'aimerais bien faire un petit tour, si tu veux bien, dans ton atelier.
Allons-y.
Merci.
Bon, ça, c'est du funéraire aussi, puisque c'est des petits cœurs pour créer de l'hommage lors de la cérémonie, que chacun puisse venir poser un petit cœur auprès du cercueil.
Mais ce sont des urnes pour enfants, du coup.
Celle-ci, c'est pour enfants, celle-ci, c'est à destination des animaux.
Ah oui.
Voilà.
Quand tu as reçu ton premier tampon à Sclay, ça devait être quelque chose, hein.
Ouais, ça donne une réalité.
Ça doit être assez émouvant, ouais.
Il y a déjà beaucoup de chemin parcouru, tu te dis, allez, ça y est, on y va.
Ah ouais.
C'est tout doux,
comme tu dis. Ah oui, c'est ce que
là,
tu...
ça va pas que
je peux toucher, là, c'est pas l'une. Tu vois ce que c'est, la SMR? Bah, merci beaucoup. J'étais trop contente de revenir ici.
C'était Écouter pour mieux s'entendre, une émission qui propose le portrait sonore des personnes qui ont fait le choix d'une vie atypique.